qui sont apportées montrent l'importance de la liberté religieuse et que beaucoup de bien en viendra. Mon intérêt pour ce thème vient du fait que je suis aussi un homme, mais je viens de l'université de Brigham Young. Mais pendant de nombreuses années, j'étais le conseiller juridique et une de mes responsabilités était de travailler sur les problèmes de liberté religieuse dans les universités américaines. Donc, je suis très content d'être ici à cause de ces intérêts que j'ai. Mais en ce moment, je suis un juge de la Cour d'appel à Washington, D.C. Nous avons deux juristes distingués. Vous pouvez voir leur biographie. Je ne vais pas prendre du temps pour cela. Nous sommes contents d'avoir le juge de la Cour suprême d'Ukraine et le juge de la Cour d'appel très distingué. Nous allons d'abord avoir donc ce sera d'abord juge Segodnia qui va nous parler.
Доброго дня, пані і панове. Я дуже радий бачити вас всіх на цьому величному симпозіумі щодо релігії і права людини. Перш за все, я хочу від імені голови Верховного суду України, пана Романюка, подякувати за запрошення взяти участь у цьому 20-річному щорічному міжнародному симпозіумі з питань права і релігії. Для мене особисто...
Alors les problèmes, les questions pressantes.
Good morning, ladies and gentlemen.
Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis désolé du délai, du fait d'être des problèmes techniques que nous avons eus avec la traduction. Je suis heureux de pouvoir être avec vous dans cette salle. Tout d'abord, de la part de le président de la Cour suprême de l'Ukraine, M. Armagnac, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité à participer à ce symposium, 20e symposium annuel concernant le droit et la religion. Pour moi, en tant que juge de la Cour suprême des États-Unis, de l'Ukraine, je suis honoré d'être fait partie de ce forum ici pour parler des questions pressantes et de faire part de notre expérience. Après tout, nous vivons dans un monde global et l'interaction et l'intégration de différentes cultures et religions et des systèmes religieux. Et toutes les religions sont attachées à leurs frontières nationales. Le développement rapide de la vie religieuse en Ukraine devrait être vu comme un processus objectif et en partie comme un processus d'autodétermination de la société. il y a certaines tendances de cette approche dans la lutte de son influence et de pouvoir dresser la vérité des problèmes. La tâche de l'État est qui prend en compte l'intérêt des différents organismes religieux en Ukraine pour former une base religieuse solide en relation avec l'Église sur le principe de la démocratie, de la justice et de l'égalité. Selon l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que nous avons entendu aujourd'hui, chaque personne a le droit à la liberté et de la conscience de religion, et aussi ce droit comprend le droit de changer la religion et sur la base de ses croyances naturelles, personnelles ou en collaboration avec d'autres, et de pratiques privées et de la réalisation de la religion et d'autres rituels. D'autres instruments internationaux comme l'article 9 de la Convention européenne et l'article 18 et d'autres. La Constitution d'Ukraine, dans l'article 35, dit que tout le monde a droit à la liberté de croyance et de religion, qui leur permet de pratiquer la religion ou de ne pas en pratiquer du tout. Les droits religieux et rituels, et d'avoir des activités rituelles ou non. Et ceci peut être restreint par la loi juste seulement dans le cas d'ordre public. Les églises et les organismes ukrainiens sont séparés de l'Église et séparés entre l'Église et l'État. Personne ne devrait être relevé de ses obligations par l'État ou refusé d'enforcer certaines lois sur la base de la religion. Alors, tous les citoyens, la performance de leurs devoirs devrait être pour les libertés de conscience, la consistance Alors, spécifiquement depuis l'année dernière, l'État protège la loi, l'intérêt par la loi, l'intérêt de chaque organisme religieux. Il promeut aussi le respect entre les différentes religions et les personnes qui pratiquent des croyances et des pratiques différentes, prenant en compte les traditions et les pratiques des organismes religieux, pour autant qu'ils ne sont pas en conflit avec l'intérêt national. L'État n'interfère pas dans les affaires religieuses de n'importe quel organisme. Toutes les religions et les organismes religieux sont égaux devant la loi, devant le droit. Et tout avantage ou limitation et limite créée par un certain groupe religieux auprès des autres n'est pas permis. Les organismes religieux n'ont pas le droit de performer de fonctions publiques. Les organisations religieuses n'ont pas le droit de participer ou d'apporter du support financier aux partis politiques ou de soutenir ou de sponsoriser quelconque candidat et les promouvoir. Les croyants ont le droit de participer à toute pratique politique comme tous les autres citoyens. Mais les religions, les organismes religieux ne doivent interférer à l'intérêt d'aucun autre organisme ou d'autre religion, d'autre foi. Chaque organisme religieux doit respecter la loi du pays. Les pratiques collectives des croyances religieuses en Ukraine et sans représentation légale est difficile. Alors, particulièrement concernant les manifestations et les distributions de littérature et le fait de remplacer le service militaire pour un service religieux, les organismes doivent être enregistrés et doivent être inscrits légalement dans le pays. Bien que les législateurs stipulent que les communautés ne peuvent exister légalement et peuvent être sans statut religieux et respectivement, l'inscription au registre national est quelque chose de requis afin de pouvoir promouvoir leur foi. Les communautés non inscrites n'ont pas de droit. En plus de cela, la liberté religieuse, le droit d'organiser des études et le droit de faire du prosélytisme et tout cela émane du droit de liberté religieuse et cela ne dépend pas de leur statut, de la statut de leur organisme. Et c'est important de mettre en face sur le fait que certains groupes religieux existent parce que la séparation justement de qui existe parce que le contact, leur relation avec l'État fait partie de leur foi. Le droit d'établir des organismes religieux fait partie du droit intégral d'association et en conséquence fait partie ainsi donc il est nécessaire d'être inscrit au registre et c'est nécessaire dans notre société. Et lorsque un organisme religieux s'inscrit au registre, nous ne pouvons pas interférer aux droits des citoyens et des personnes. C'est là une relation claire entre l'État et les personnes de pouvoir autodéterminer leurs croyances et leur appartenance religieuse, indépendamment, et de pouvoir gérer tout cela indépendamment. Tout d'abord, deuxièmement, l'acquisition de procédures générales pour entreprendre. Les institutions, les organisations institutionnelles et les statuts et des régulations qui régulent les activités contraires à la loi applicable, le fait de refuser un statut le demandeur du statut spécifique sera informé sous 10 jours du refus d'obtenir ce statut spécifique. Dans le cadre de... Si lorsque l'organisme religieux tout d'abord, l'organisme religieux, s'il a créé des actes inadmissibles par l'article 317 de la loi ukrainienne, certaines combinaisons de rituels religieux qui atteignent sur la dignité humaine et la vie et des autres et l'établissement d'autres institutions religieuses pour des activités publiques, des rituels d'adoration, des cérémonies, etc. Et d'encourager d'échouer dans la... d'informer ses citoyens, sa congrégation concernant leurs droits et sur la propagation et la manifestation religieuse sur l'espace public. La Cour impose certaines limites selon le code procédure d'Ukraine de de faire avancer l'inscription de certains organismes sur... La loi ne spécifie pas non plus comment certaines inscriptions devraient être refusées, mais cela dit, la loi devrait expliquer spécifiquement quelle violation de la loi justifie un refus d'inscription. Le droit d'exercer le contrôle d'État sur certains organismes et d'empêcher d'exercer la liberté de religion. Le ministre de la Culture et de l'Ukraine C'est l'inscription au registre peut être effectuée à peu près sous un délai de 9 à 18 mois. Et toutefois, cette procédure était très bureaucratique et n'est pas bien définie. Toutefois, les organisations religieuses sont d'accord avec cela parce que en faisant ce type d'inscription, il y a moins de contrôle sur l'activité interne, sauf si il y a une association avec l'activité d'étrangers. Et un événement important, comme vous avez pu voir, c'est qu'il y a, des différences dans nos lois. Et vous pouvez voir que dans cet exemple, par exemple, il y a dans le cas de certaines églises, je n'ai pas très bien compris le nom de l'église, contre l'État de l'Ukraine, où il y a eu en fait le refus de l'inscription, où la cour, le tribunal a trouvé que les... qu'il y avait insubordination de la communauté de ce groupe religieux en Ukraine sous le régime ukrainien. Il y a eu en fait une contradiction parce qu'en fait la soumission était sous l'église orthodoxe ukrainienne et donc l'autre église a attaqué en justice pour pouvoir se faire reconnaître indépendamment. L'État n'a aucun droit d'interférer dans cette sphère sous aucun cas ou circonstances. De manière pratique, ceci veut dire qu'il n'y a aucune action ou de force qui peut être imposée concernant leur proposition et qui, en général, la législation protège de manière adéquate cette liberté. En Ukraine, il n'y a pas de provision pour le soutien forcé ou l'appartenance forcée à un groupe et ou de ne pas travailler sur certains jours fériés, jours religieux, fêtes religieuses. En Ukraine, nous... des situations, des cérémonies religieuses ne peuvent être exécutées sans provision ou sans autorisation de l'État. Il y a des problèmes potentiels où, en fait, il pourrait y avoir des problèmes de refuser l'inscription ou de donner un numéro d'identification sur la base de croyances religieuses. Nous pouvons voir aussi par la Cour qu'il peut y avoir une détermination de donner de pouvoir donner accès à une propriété pour un bâtiment pour construire. Si nous parlons ici de pratiques criminelles, ici, j'aimerais mentionner en 1991, nous avons entendu que il y a eu une situation où il y avait le droit des d'un parti qui florissait et ce, d'un groupe qui était les frères de droit, la Rights Brotherhood, le tribunal était soucieux du fait qu'il était soucieux de qu'il y ait de la persécution contre eux. Et en 1993, plus d'une centaine de personnes de l'église orthodoxe à Sofia ont essayé de sont venus devant l'église orthodoxe la ville de Sofia et se sont transformés en torches humaines. Et en 96, le dirigeant de cette secte a été a été attaqué en justice et la Cour suprême d'Ukraine et a maintenu l'appel, la décision inchangée. Et l'Ukraine permet la liberté de religion. Certaines failles qui compensent certaines pratiques libérales de l'État. Le choix européen d'Ukraine permet de fleurir dans le futur. Et maintenant, l'Ukraine est à juste une étape de faire partie de la communauté européenne. Et ceci montre juste comment nous allons avoir de meilleures lois, justement, dans l'avancée, dans le futur, et nous allons avoir plus de changements et des réformes en Ukraine, et au moins l'espoir que l'Ukraine, si nous avons l'espoir que l'Ukraine fasse partie de la communauté européenne, nous aurons des lois plus claires en ce qui concerne les libertés religieuses et les droits de l'homme. Merci beaucoup.
Good morning to all of you and thank you for those very important remarks that you made.
Merci pour vos remarques importantes sur l'état de l'Ukraine. Nous avons invité des juges de partout dans le monde pour cette conférence. D'habitude, nous parlons d'idées, partageons des idées, mais il doit être accepté comme un fait que les droits de l'homme, religieux ou autres, ne sont que des théories jusqu'à ce qu'il y ait une cour qui la mette en application. Il n'y a pas de droit jusqu'à ce que la Cour les mette en œuvre. Donc, nous voudrions voir ce qui se passe après la discussion sur les droits de l'homme. Nous avons donc deux sessions séparées, celle-ci. Et ensuite, une deuxième après la deuxième session plénière, qui seront des rapports sur la façon dont on traite ces problèmes qui sont discutés dans les sessions plénières. Et cet après-midi, après le déjeuner, nous aurons une discussion avec des juges. Et je serai la personne qui va présider. Il y a trois juges prominents et je vais leur poser des questions. Ils ne connaissent pas encore la nature des questions et je vais vous laisser poser des questions pour voir comment les choses sont mises en mettre pour que vous puissiez voir à la fin du tunnel que ce sera très productif. Aujourd'hui, je vais parler de l'approche aux États-Unis qui est bien différente de ce dont vous avez l'habitude, de tous les pays dont nous entendons parler, qui sont influencés par des normes internationales, comme ça a été indiqué dans différentes conventions et conférences. On en parle comme des lois, mais aux États-Unis, ce n'en sont pas. Donc, ça pourrait être intéressant. Mais d'abord, je voudrais indiquer ma gratitude personnelle pour le fait qu'un représentant de l'Ukraine soit parmi nous. J'ai eu l'occasion de travailler en Ukraine et les juges sont très contents de la nouvelle Ukraine. Et j'étais dans une conférence de juges de Cour suprême en Europe de l'Est et les juges de l'Ukraine participent activement pour améliorer le système judiciaire en Europe de l'Est centrale. Ils étaient sous la domination de Moscou pendant tant de temps. Et maintenant, ils sont indépendants et peuvent développer leur propre système. Et je peux vous assurer que ce dont il a parlé de la liberté de religion en Ukraine est vrai. Nous avons une petite fille qui a fait une mission pour l'Église mormone et elle était en Ukraine et a appris à aimer les Ukrainiens et a été très active. Et quand je vais en Ukraine, je n'ai pas de difficulté à trouver une église mormone. Et je peux vous assurer que c'est ce que vient de dire le juge est vrai. Et si on passe aux États-Unis, notre relation avec les droits de l'homme est basée sur l'histoire de notre pays et comment les choses se sont développées et ce que fait notre Constitution. Il y a un article excellent sur la clause du libre exercice du premier amendement de la Constitution qui a été écrit par le professeur Michael McConnell, qui était un juge de la Cour d'appel, mais qui maintenant a quitté cette cour, qui s'appelle Les origines et la compréhension historique du libre exercice de la religion. Il a expliqué les approches de relations Église-État avant la Constitution et ensuite ce qui s'est passé avec les pères fondateurs pendant les débats de ratification. Il parle de la perspective madisonienne, d'après Madison, qui représente le mieux la compréhension du terme libre exercice de la religion. Je sais ce qu'il avait à dire parce que l'histoire a beaucoup à faire avec ce dont nous parlons aujourd'hui. Ma vue est un peu différente, mais parvient à la même conclusion. J'ai écrit dans un article de l'Université Brigham Young, une revue judiciaire, et elle va avec le juge de la Cour suprême, Lundquist, qui indique ce dont parle l'histoire. Et il a mis une autre opinion à l'école de Santa Fe. Lorsque nous réunissons et que nous avons un débat qui va d'État en État ou de colonie en colonie pour savoir si la Constitution allait être acceptée. La Constitution elle-même, qui a été écrite il y a plus de 200 ans, n'est pas une Constitution de droit. Les constitutions incluent les droits spécifiques des peuples et elles sont incluses dans une déclaration. Ce n'était pas le but de la Constitution américaine. La Constitution devait limiter le gouvernement. Le peuple pensait que s'il limitait les pouvoirs gouvernementaux, donc dans les différents États, le reste du pouvoir resterait au peuple. Donc, en lisant la Constitution, vous verrez des relations limitées, vous ne voyez pas des droits. Il n'y a qu'un droit dans le corps de la Constitution. C'est le droit de brevet, de propriété intellectuelle. À l'époque, les personnes comprenaient l'importance de l'économie par rapport à la croissance du pays. Donc, il ne voulait pas que la Constitution interfère avec les droits de brevet. Après le développement de la Constitution, il y a eu un accord qu'il y aurait des amendements à la Constitution. Immédiatement après l'adoption de la Constitution, les fédéralistes, le parti gagnant, dans le premier congrès, a travaillé à rédiger une liste de droits. Mais le premier amendement est donc un de ces droits, et donc il doit être le premier, le plus important, mais ce n'est pas le cas. La liste des amendements qui ont été proposés par Madison, dans cette liste, c'était le troisième, mais les deux premiers ont été rejetés. Donc le premier amendement est donc devenu le troisième, est donc devenu le premier. Ce que cet amendement fait, c'est qu'il procure des restrictions sur. Il a deux clauses. La clause d'établissement qui dit que le Congrès ne peut pas désigner une religion nationale. Pourquoi est-ce que c'est important? À l'époque, il y avait certains États qui avaient des religions reconnues d'État qui étaient financées par l'État. Et il n'y avait rien de mal à cela, mais il n'y avait rien dans la Constitution qui disait que c'était mal, mais ce qu'il ne voulait pas qu'il y ait une religion nationale reconnue. Il ne voulait pas une religion nationale. Et donc, il y a la clause de libre exercice qui ne donne aucun droit, mais qui empêche le Congrès d'interférer avec le libre arbitre, le libre exercice. Donc, c'était les deux principes auxquels ils s'intéressaient. Vous voyez qu'il y a une approche économique en ce qui concerne la religion pour le gouvernement. Et maintenant, nous voyons l'importance de l'économie dans nos pays. L'approche du marché amène beaucoup de bienfaits à nos pays. Et si nous utilisons cette approche de marché, il y a deux choses qui se passent. Nous évitons les monopoles qui ont une tendance à ne pas avancer, mais à financer le monopole. Il n'y a pas de raison pour que les monopoles améliorent leurs procédés ou processus, parce qu'ils ont déjà, par leur pratique, une façon de financer leur monopole. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que lorsqu'il y a des monopoles, cela diminue au lieu d'augmenter les revenus. Et ils ne voulaient pas une église monopole qui empêcherait une implication, une participation religieuse continue. Ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'il y ait une interaction dans les religions, qui est une sorte de concurrence, et c'est ce que la clause de libre exercice doit avancer. Donc, s'il y avait une compétition entre les différents cultes, cette compétition les protégerait. Et s'il n'y avait pas d'interférence gouvernementale, tous les droits religieux seraient préservés. Donc, l'approche n'était pas gouvernementale et d'établir des droits, mais d'essayer de décharger le peuple du gouvernement pour qu'il puisse avoir cette discussion ou ces discussions et que les religions qui ne répondaient pas aux droits du peuple diminueraient et les religions qui aideraient le peuple dans leurs croyances grandiraient. Et ces processus sont comme l'économie, les produits les meilleurs allaient gagner. Et si vous voyez la difficulté, c'est lorsque nous ne suivons pas la Constitution d'origine et certains des membres de la Cour suprême ont montré qu'il y a eu une mécompréhension du texte de la Constitution. Le gouvernement qui pensait exercer leurs droits législatifs, qui interférait avec le libre exercice. Donc, c'est ce que nous avons à faire maintenant. La question est-ce que le gouvernement peut interférer avec ses droits? Il n'y a jamais eu d'église monopole, mais le gouvernement a adopté des législations qui disent ont une interférence avec les clauses. Non pas. Qui sont comme si le gouvernement établissait une église dans quelque chose qui est très fragile. Dans notre perspective, la Cour suprême n'est pas finale parce qu'elle a raison. Elle a raison parce qu'elle est. Elle a la décision finale et elle devient la loi. Mais nous, comme juge de cour inférieure et juge inférieur, excepté pour la cour, la 9e cour à Washington, D.C., doivent acquiescer. Nous n'embrassons pas les documents nationaux. Ils ne sont pas la loi du pays, à moins que le Congrès n'accepte un traité. Nos organisations, à tort ou à raison, à veiller à ne pas faire de traités qui d'eux-mêmes deviennent la loi. Le Congrès doit approuver le traité. Le président peut faire passer toutes sortes de traités, mais jusqu'à ce que le Congrès américain ne l'accepte, cela ne devient pas la loi du pays. Si le Congrès l'accepte, il devient la loi du pays. Lorsque les peuples parlent de la loi internationale aux États-Unis, il n'y a pas de loi internationale, il y a des théories internationales. Mais ce n'est qu'une fois que le Congrès l'accepte que cela devient la loi du pays. Tous les accords internationaux en place dans notre loi, oui, bien sûr, et nous acceptons des lois qui ont un caractère international. Nous les considérons, mais nous ne faisons pas référence à ces lois internationales. Nous sommes critiqués pour cela, mais c'est à cause de notre système judiciaire. Ayant dit cela, et je suis sûr que les interprètes ont vu que ce n'a rien à voir avec mon texte, mais ils voulaient avoir quelque chose. Et je suis sûr qu'ils se sont intéressés à la lecture du texte. Mais maintenant, j'aimerais parler de la clause de libre exercice qui devient très significative. Les problèmes dont j'ai parlé ont survenu pendant trois années, dans les années 40. Je me réfère à des affaires très importantes. La Cour suprême avait décrété qu'elle pouvait forcer les témoins de Jéhovah à saluer le drapeau et à réciter la promesse d'allégeance au drapeau. Mais le juge Frankfurter ne pense pas qu'il peut faire une promesse et pense que c'est une invasion de leur libre exercice de la religion. Donc, il y a une affaire Millerville School District et Gobitis. Le juge Frankfurter a reconnu que la poursuite affirmative de ses convictions par rapport au mystère ultime de l'univers, Dieu, je pense, et la relation humaine à celui-ci est placée au-delà de la portée de la loi. Il a conclu que la signification du drapeau dans le développement de citoyenneté l'emporter sur ce droit. Et le droit de libre exercice a dû être examiné par la législature plutôt que par les cours. La Cour devait dire que la Constitution ne permet pas une interférence, mais vous voyez ce que la Cour est s'engage vis-à-vis de la législature. Donc, il ne voulait pas que c'est à cause de la citoyenneté. Ils ont pris deux éléments en parlant du Congrès qui ne peut pas, sous toutes circonstances, le Congrès ne peut pas. Donc, le Congrès ne peut pas. Donc, la Constitution était en train d'être modifiée par la Cour suprême qui voulait équilibrer cette liberté que nous ne pouvons pas pénétrer par la citoyenneté qui est une valeur importante. Et le juge Stone a différé avec ce jugement et a pensé que le salut forcé, la récitation forcée, ses enfants a exprimé un sentiment qui, comme ils l'ont interprété, ils ne devaient pas entretenir et qui violait leurs convictions religieuses les plus profondes. Et il a dit que la législation qui restreint la liberté religieuse de petite minorité ne devrait pas être devrait maintenant être le sujet d'un examen judiciaire plus soutenu. La résistance des témoins de Jéhovah de saluer le drapeau a conduit à une vague de persécution. Des centaines de témoins de Jéhovah ont été attaqués et sanctionnés par la police locale. C'était une mauvaise partie de notre histoire où nous avons oublié ce que les pères fondateurs avaient en vue. La Cour suprême a changé la voie de voix il y a trois ans. avec le cas Barnett contre l'État de Virginie de l'Ouest. Donc, c'est le juge Jackson qui a rejeté spécifiquement Gobitis et qui a conclu que la contrainte n'est pas un moyen permis pour réaliser l'unité nationale. Dans un passage célèbre, le juge Jackson a expliqué que s'il y a une étoile fixe dans la constellation constitutionnelle, c'est qu'aucun représentant officiel, grand ou petit, peut prescrire ce qui sera orthodoxe en question politique, nationale, religieuse ou d'autres opinions, et forcer les citoyens à confesser en actes ou en paroles quelque chose que leur foi les en empêche. S'il y a des circonstances qui permettent cette exception, elles ne nous viennent pas à l'esprit. Donc il a continué ce qui avait été initialement proposé. Il a continué que s'il y a une sphère intellectuelle et spirituelle que le premier amendement met à part, c'est de le mettre à part de tout contrôle officiel. La Cour a dit que, par exemple, on ne pouvait pas restreindre le prolongement d'une assurance chômage à un membre de l'Église adventiste qui ne pouvait pas obtenir d'emploi parce que, à cause de son obligation religieuse de ne pas travailler le samedi. Dans Sherbet et Werner, ils ont changé leur direction, et dans Employment Division et Smith, la Cour suprême a rejeté le test doctrinal de Sherbert et a remis en vigueur la suggestion de juge Frankfurter, donc que le libre exercice devait faire partie du processus politique. Le Congrès américain a annulé Employment Division avec l'acte de la protection des libertés religieuses, et cette loi a été ensuite cassée en tant qu'inconstitutionnelle, et le test doctrinal plus important s'applique toujours, qui dit que le gouvernement ne n'alourdira pas l'exercice de religion d'une personne, à moins que ce fardeau résulte d'une loi d'applicabilité générale. Donc il y a un examen beaucoup plus important qui s'exerce maintenant, à moins que ce moyen soit restrictif et ne serve pas à cet intérêt. J'ai oublié tous les États qui ont adopté leur propre loi. Cela continue à être contesté et débattu, et je n'ai plus de temps. Mais nous avons toujours des problèmes avec les répartitions en zones où les communautés locales interfèrent avec les permis de construire sur des bases qui n'ont rien à voir avec les mandats de la Cour suprême. Nous continuerons à avoir des difficultés et des défis dans une économie en expansion où la liberté d'expression est acceptée largement, et nous continuerons à les avoir dans nos cours. Et c'est tout le temps que j'ai pour partager ces idées sur les États-Unis, et j'espère que vous les trouverez utiles.
Well, thank you. I'm going to exercise the
Merci. Je crois que je vais exercer justement la prérogative du modérateur justement pour utiliser. Je peux m'empêcher en fait de remarquer cette présentation et ces présentations excellentes de deux approches différentes qui viennent de deux traditions différentes concernant donc le pluralisme religieux. J'aimerais poser une question qui prend racine sur ces mêmes présomptions. Et je vais d'abord diriger vers au juge Wallace et puis après je vais aller me diriger à notre invité de l'Ukraine. Juge Wallace, vous avez expliqué de manière assez générale, mais bien présentée, la manière dont les États-Unis approchent la liberté religieuse. Et pouvez-vous expliquer pourquoi aucune autre tradition dans le monde n'a adopté cette approche dans le pluralisme religieux? Ce n'est pas une nouvelle idée. Ça fait déjà quelques deux siècles que les États-Unis en parlent. Et ça n'a pas l'air de prendre de vélocité partout dans le monde. Et donc, je veux juste que vous répondiez à cela. Et pendant que vous y réfléchissez, il y a une évidence. Il y a un groupe croissant de personnes, de groupes qui acceptent un pluralisme religieux où la société fleurit et en bénéficie de manière, en fait, même économique et d'autres manières aussi. Et donc, face à cela et à ce nombre croissant d'évidences, pourquoi tant de nations résistent à l'idée du pluralisme religieux, il y a une compétition religieuse, peu importe les frontières nationales, d'ouvrir les nations à une compétition robuste et vigoureuse entre nos religions, un peu au modèle économique. Alors donc, juge Wallace, et puis aussi, donc après, monsieur notre invité d'Ukraine. Dans mon intérêt maintenant, ce que j'ai le plus grand bénéfice en travaillant avec les pays en dehors des États-Unis, j'ai travaillé maintenant avec trois pays.
Je les aide à améliorer leurs procédures judiciaires dans les cours. Et c'est pour ça que je voyage toujours encore autant. Mon travail dans ces pays, et j'ai trouvé j'ai rarement recommandé qu'ils adoptent ce modèle. Les États-Unis sont un autre pays avec une histoire différente. Les principes sont justes, mais l'adaptation est difficile. S'ils aiment les principes, il faut les faire, les ajuster aux besoins du pays. Depuis la tour de Babel, nous avons d'autres histoires. Elles sont importantes pour notre peuple et pour nous, pour que nous rédigions des lois qui puissent être acceptées par le peuple. Nous avons des principes qui régissent tout cela, mais nous avons une histoire de 100 ans qui diffère de l'histoire de la plupart des pays qui ont des constitutions de 14 ans, alors que cette constitution américaine a été écrite il y a 220 ans. Donc, il y aura des approches différentes et je ne m'attends pas à ce que les gens commencent à rédiger un premier amendement et à changer, modifier tout ce qu'ils font et suivre une approche économique. Mais le principe est vrai que les religions sont importantes. La religion n'est pas un droit humain, un droit de l'homme, mais nous ne fonctionnons pas comme cela, mais c'est essentiel à notre pays. Mais nous devons fonctionner de telle façon que les religions soient protégées puisqu'elles font tant pour notre pays. Ce n'est pas que nous allions à l'église, mais que nous trouvons que par l'intermédiaire de la religion, les personnes deviennent de meilleurs citoyens, ils sont plus altruistes, plus serviables. Donc, c'est une bonne chose que les religions soient là parce qu'elles accomplissent beaucoup. Ce principe est applicable partout, mais la méthode serait différente de celle des États-Unis. Je ne vois pas comme un problème d'échec. Nous avons réussi à cause de notre histoire, mais d'autres pays devraient, et beaucoup le font, accomplir la même chose par les programmes de droits de l'homme. Et voilà mon histoire, voilà ma réponse.
À mon avis, dans ces pays où il y a la liberté religieuse, liberté de religion, où il y a le respect pour les différentes religions et les différents organismes religieux dans les et où l'État et le gouvernement n'interfèrent pas dans le développement de ces organisations religieuses. Dans ces pays, nous avons pu observer un meilleur développement économique et culturel et d'autres aspects aussi. Je pense que, en ce qui me concerne, en parlant d'Ukraine, plus spécifiquement de la partie ouest de l'Ukraine, vous voyez plus, vous verrez plus de personnes religieuses. En majorité, il y a les églises catholiques grecques et les personnes dans ces États, dans ces provinces sont si unies. Ils célèbrent les fêtes religieuses ensemble. Les étudiants vont à l'école ensemble et s'édifient l'un l'autre. Et ceci influence vraiment de manière positive les familles. Et vous voyez, en fait, les écoles d'église où vont les enfants influencer vraiment la vie familiale. Vous voyez qu'ils étudient la religion à l'école et ceci a une influence très positive dans le développement des enfants. Et lorsque nous voyons des distractions où nous voyons des problèmes entre les différentes églises, par exemple les orthodoxes ukrainiens à Kiev et contre les orthodoxes de Moscou, nous voyons une interaction pas très saine parfois. Et parfois, ils sont en conflit sur les manières, les lieux de culte, etc. Et en ce qui concerne Ceci bénéficie non pas seulement les personnes, l'individu et la famille, mais aussi tout le pays dans son ensemble.
Merci beaucoup. C'est à votre tour de poser des questions. Si vous voulez, et vous pourrez indiquer à qui vous voulez adresser votre question ou l'adresser à tous les deux, mais précisez à qui vous voulez adresser votre... Non, je viens de Hongrie. Merci pour votre présentation. J'ai une question pour le juge Zavanodny. En 2010, l'Ukraine a eu une réforme importante, une réforme judiciaire importante qui a aussi affecté la nomination de la Cour et toute la structure de la Cour. Et cet été, le Comité des Nations Unies des droits de l'homme a suggéré que les juges en Ukraine devaient recevoir une formation pour pouvoir appliquer les lois domestiques de l'Ukraine à la lumière de la jurisprudence. Que pensez-vous des capacités des juges de l'Ukraine d'appliquer les lois de droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez en parler?
Merci de la question. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en Ukraine, nous avons... beaucoup de travail effectué par les gouvernements et les États et l'État en faveur des droits de l'homme dans notre pays et sur la base de la question religieuse, de la religion et de la reconnaissance des religions. Disons juste que les tribunaux essayent de d'établir des législations criminelles qui ne fonctionnent pas basées sur les croyances religieuses. Il y a certaines règles. Nous parlons de lois concernant la construction des églises et de l'enregistrement, de l'inscription des églises et des tribunaux les tribunaux doivent appliquer la loi locale. Sans dominer l'une ou l'autre des églises, vous avez mentionné que les juges d'Ukraine ont besoin d'obtenir une formation supplémentaire concernant les droits de l'homme. Je ne pense pas avoir cette information que nous devions que nous ayons reçu cette suggestion de recevoir cette formation. Je pense que ceci est formé dans la loi. Merci.
Merci beaucoup. C'était une excellente présentation des deux juges. D'abord, la première intervention. la présentation sur les USA. Quelles sont les considérations qui, où on pense qu'il y a une violation des droits personnels? Quand vous traitez des problèmes publics, lorsque une personne interfère avec les droits d'une autre personne, quels sont les exemples qui peuvent être considérés à ce niveau-là? Mon deuxième point est pour mon collègue ukrainien. Dans les enregistrements, on peut accepter de se faire enregistrer ou décliner de se faire enregistrer. Je me demande comment est-ce que ces deux paramètres marchent ensemble pour un procédé actif. Merci.
La manière dont je comprends la question, c'est qu'il y a certaines restrictions qui sont placées sur certaines religions, qui est l'exercice libre de faire ce qu'ils veulent. Et bien sûr, c'est toujours le problème. Lorsque vous donnez à quelqu'un la liberté, certaines libertés, certaines personnes pensent que c'est la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais dans une société où parfois ceci va à l'encontre de certaines valeurs concernant même les procédures de droit commun. Et c'est là le lieu, l'emplacement où c'est là où les États-Unis a été impliqué de manière fervente. Ça a commencé à peu près il y a 130 ans, lorsqu'il y a eu le cas à peu près des États-Unis contre Reynolds, où lorsque les gens qui justement soutiennent cette conférence, l'Église mormone, qui vivait en polygamie, la plupart des musulmans ont le droit ce droit de faire cela. Mais sous la pratique des mormons, il fallait être appelé à être polygame. Et il fallait que ce soit sous l'approbation de la première femme. Et donc c'était très limité de pouvoir obtenir plusieurs femmes. Et c'était à peu près 4% de l'Église à l'époque. Et donc Reynolds, qui était un polygame sur la base de la loi de bigamie, que vous ne pouvez pas épouser plus d'une femme, les États-Unis, à la Cour suprême, on dit que même s'ils reconnaissent le libre exercice de la religion et que le Congrès ne peut rien faire pour interférer contre l'exercice de la religion, ceci rentre dans le cadre de la loi criminelle et par conséquent, ils peuvent intervenir. Et ceci me semble être un bon principe dans la mesure où c'est utilisé de manière adéquate. Et même aujourd'hui, du moins, il y en a qui utilisent le marijuana dans le cadre de leur religion. Ils n'ont pas le droit de le faire ça. Vous ne pouvez pas tuer les animaux. Il y a certaines choses qui sont restreintes du fait de la loi criminelle et des lois criminelles que nous avons. Et si ces lois criminelles changeaient, alors ces limites changeraient. Alors, s'il n'y avait sans cela, il serait difficile d'équilibrer ces limites. L'une des limites qu'on a du mal à équilibrer, c'est théoriquement, pour d'autres raisons, c'est ce qui concerne les zones de construction. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'avèrent être juifs ou musulmans dans une communauté prédominantement chrétienne. C'est là les problèmes où nous avons, c'est là quand ils ne sont pas bien acceptés. Parce que de manière générale, dans l'application des lois criminelles, est-ce qu'il y a certaines lois qui sont mal utilisées localement afin de renforcer leurs idées sur certaines religions? Mais l'exercice libre ne va pas au-delà des lois du pays.
La question que j'avais en ce qui concerne les enregistrements des églises en Ukraine, cela s'arrive en pratique. L'Église signe une pétition d'obtenir un terrain pour cette Église. Et cela doit être examiné par les autorités judiciaires locales. Ils doivent enregistrer le terrain. Qui va être accordé à cette église ou cette organisation. Comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est un système bureaucratique en Ukraine qui prend d'habitude pour cet enregistrement de l'église une année et demie. Cependant, cette organisation religieuse attend je voulais vous dire que à Kiev en particulier la plupart des églises sont des églises orthodoxes ukrainiennes. Pourquoi est-ce que cette église fleurit, tout particulièrement à Kiev? C'est parce qu'ils ont beaucoup de terrain pour le développement de l'église. D'abord, elle commence par une petite chapelle et ensuite, ils bâtissent un grand temple. D'habitude, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est à cause du gouvernement, mais je vois que c'est ce qui se passe en ce moment. Maintenant, nous voyons de plus en plus d'enregistrements de cette église particulière. S'ils ne sont pas enregistrés, ils vont au tribunal. Et dans une cour de loi législative administrative, et ils déclarent vouloir enregistrer une telle église. Si ce sont des organisations légitimes, elles seront enregistrées.
Question? Alors, l'emploi du temps dit que maintenant on devrait avoir fini. Alors, ok. Alors, une question rapide, vite. Je serais du corps des Desert News. Je suis intéressé à votre interprétation de comment utiliser l'expression libre expression de la religion en relation avec la notion de la liberté d'expression aux États-Unis avec le Bill of Rights qui est positionné dans la même section où il y a un dialogue aussi concernant la liberté d'expression et la liberté de religion qui est une intention il y a des intentions différentes. Est-ce que vous pensez que ceci sont des libertés identiques ou est-ce que ce sont deux pensées différentes, deux manières différentes de penser de la liberté religieuse par rapport à la religion, à la liberté de presse.
J'hésite toujours à répondre à des questions comme la vôtre. Comme parfois il y a des affaires et on me répond, vous avez déjà émis votre avis à la conférence de BYU. Hier soir, un de mes collègues d'Angleterre m'a dit, chaque fois que vous dites religion et, il y a un différent mélange qui se passe. Lorsque vous dites et, il faut qu'il y ait la même opportunité, les mêmes protections. Mais parfois, dans certains cas, l'un devrait avoir une plus grande protection que l'autre. Ce qui est fait publiquement dans des tribunaux européens. Donc, je suis toujours hésitant à rendre équivalent à l'un ou l'autre. Je ne vois aucun problème à y penser. Le problème vient dans l'application. Vous ne savez pas ce qui va arriver une fois que vous avez identifié un objectif et un autre objectif. Si vous prenez l'un, vous prenez l'autre. Il vaudrait mieux identifier à un moment donné, dans 10 ans, il y aura une raison pour laquelle elle ne devrait pas être similaire et que l'un aura moins d'importance et que l'autre ne devrait pas être diminué de la même façon. Donc, je suis préoccupé par l'idée d'unifier ce qui ne peut pas être unifié. Mais en tant que juge, nous devons absorber continuellement des pensées et des principes que nous devons appliquer. Donc, continuez à penser à cela, mais j'hésiterai à écrire un avis qui... une opinion. Est-ce que vous êtes là pour un article? Non, pas pour ça. Je remercie tous nos orateurs. Est-ce que vous voulez les applaudir? Et je dois vous rappeler que le déjeuner pour les délégués et les invités sera à 12:30. Il est à 10 minutes d'ici. Et vous recevrez des instructions pour vous orienter. C'est à l'autre bout du campus. Et nous aurons une conversation avec les juges immédiatement après le déjeuner dans cette salle. Merci.